mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attaque.
Et nous recevons ce soir Marc Delpouve, qui viendra nous parler d'une société malade des chiffres. Mais avant de parler avec notre invité, nous allons faire comme d'habitude de l'actualité, en commençant par les chroniques de JMJ, qui va nous parler des élections en Allemagne et en Autriche.
Alors, les élections en Allemagne...
Alors, les élections en Allemagne ont fait couler beaucoup d'encre, c'est normal, c'est notre premier partenaire, c'est notre voisin et on a une histoire fructueuse avec eux. Alors, Merkel a gagné les élections, nous dit-on partout, c'est vrai et c'est en même temps un petit peu faux et bizarre. Parce que Merkel a fait un peu plus de 40% des voix. Dans le système allemand, ça peut passer pour une victoire. En France, ce serait quand même une défaite, surtout pour quelqu'un qui se présente en tant que sortant avec un bilan. Donc une victoire écrasante, toute la presse européenne l'a dit, mais on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment une victoire et si elle est tellement écrasante. Deuxième réflexion, c'est sur l'Allemagne et les pays européens en général. Et on peut se demander si nous sommes encore dans des démocraties, puisque en Allemagne, nous assistons à une chose assez bizarre, c'est-à-dire que Merkel, chef de la droite allemande, décomplexée, revendiquée, etc., etc., n'hésite pas, à la suite des élections, à faire des appels du pied aux opposants des élections de la veille, de la soi-disant gauche allemande, et il n'est pas impossible qu'ils arrivent à faire une coalition qui serait, à ce moment-là, effectivement, écrasante. Dernièrement, Merkel a même fait des appels du pied aux Verts qui n'ont pas dit non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie dans laquelle des partis qui sont censés être opposés finissent une semaine ou 15 jours après les élections par se mettre d'accord sur un programme pour pressurer leurs électeurs?
Mais tu n'es pas dans l'esprit de la social-démocratie allemande. Même les syndicats sont très proches des milieux industriels et font tout ça dans un bon accord. Tout le monde s'entend bien, ouais, là-bas.
Normalement, c'est moi qui coupe. Donc la social-démocratie allemande, oui, mais la social-démocratie allemande est malade et on peut penser que c'est un symptôme de la social-démocratie européenne, comme on le voit d'ailleurs en France avec un Hollande qui est très très à gauche et qui n'a rien à envier à l'UMP. Troisième réflexion sur les élections allemandes, c'est le problème que les Allemands ont reconduit quelqu'un qui a un bilan social absolument catastrophique, un bilan social très lourd, puisqu'il n'y a jamais eu autant de pauvres en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Très beau bilan, merci Madame Merkel. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs précaires. Certes, le chômage est bas, mais à quel prix ? Au prix de travailleurs qui ne gagnent plus de quoi se nourrir, au prix de travailleurs qui travaillent à temps partiel, mais sont évacués des statistiques du chômage. C'est un autre système que les erreurs à la française, mais c'est pas très joli. Donc on peut en déduire une règle, c'est que les électeurs allemands sont aussi cons que les électeurs français. Quatrième point, la victoire de Merkel, c'est aussi une victoire inquiétante pour l'Europe, puisque c'est la victoire des théories de Bismarck. C'est une Allemagne dominante non plus par les canons, mais par l'économie uniquement. Une Allemagne qui est en train de mettre en coupe réglée tout le continent pour arriver à faire son beurre. Et une partie seulement, hein, il ne faut pas non plus accuser l'Allemagne de tous les maux, mais une partie de la crise que connaissent un certain nombre de pays européens vient aussi de la voracité allemande, puisque une bonne partie de l'économie européenne tourne en circuit fermé. Si un des pays s'arroge trop de richesses, eh bien, ça veut dire que ça appauvrit les autres. Et c'est la stratégie de Merkel. Et c'est un petit peu inquiétant de voir qu'un peu partout en Europe, des hommes politiques et des journalistes ont applaudi sa réélection. Sauf en Grèce, où les Grecs savent bien de quoi ils parlent. Alors, petit tour juste dans le pays voisin. Les élections en Autriche, une véritable catastrophe, là aussi, européenne, même si c'est un tout petit pays qui ne compte pas beaucoup. L'Autriche, qui ne connaît pourtant pas véritablement la crise comme les autres pays européens, a réussi à décerner donc un nombre de voix impressionnant à l'extrême droite et donc ça augure très très mal de l'avenir européen. Nous sommes à la veille des élections européennes et on peut penser que le FN et ses pareils en Europe vont réaliser malheureusement de très bons scores. Ça fait froid dans le dos, la bête immonde n'est peut-être pas complètement morte.
Alors après un péril noir en Europe... On va en écouter Alex nous parler d'un péril jaune qui, lui, vient de Chine.
Voilà. Alors le péril jaune, qu'est-ce que c'est le péril jaune en Chine ? C'est le syndicat unique qui est un héritage de la révolution chinoise, qui a très bien survécu, s'est très bien adapté au passage au capitalisme. Syndicat jaune qui tente par tous les moyens de torpiller les revendications des salariés, il est de plus en plus contesté. Alors en 1970, Alain Perfit écrivait un bouquin au titre évocateur « Quand la Chine s'éveillera, trois petits points, le monde tremblera ». Le monde tremblera. 40 ans après, on ne tremble pas vraiment face à la puissance chinoise, mais la Chine s'est bien réveillée. Le décollage économique a été spectaculaire, comme l'a été la transformation d'une économie essentiellement agricole et fermée en une puissance industrielle devenue le plus gros exportateur mondial de produits manufacturés. Alors cette mutation a un nom, l'économie socialiste de marché. De l'idéal communiste, il ne reste plus grand-chose, à part le parti unique et un certain folklore pseudo-révolutionnaire, et une autre survivance du passé qui a su à merveille à s'adapter à l'économie de marché, la Fédération nationale des syndicats chinois. Cette institution, qui est forte de 135 millions d'adhérents, regroupe l'ensemble des syndicats chinois autorisés. Bien qu'elle soit censée défendre les droits des travailleurs, elle se met en fait au service du patron, en empêchant les grèves et en décourageant les revendications. On a pu voir ainsi des syndicalistes...
Ça s'appelle la CFTT.
La version chinoise. Dans la version chinoise, les militants de la CFTT, un peu trop zélés, se trimballent avec des bâtons pour frapper sur les grévistes, pour pouvoir les remettre au travail. Mais ce monopole de la fédération a peut-être un petit peu de plomb dans l'aile. Contrairement à une légende tenace, les mouvements sociaux ont toujours existé en Chine et sont en augmentation constante. En 2010, à Shenzhen, on a recensé plus de 300 mouvements de grève. Si le statut juridique de ces grèves est flou, la loi ne les autorise pas mais ne les interdit pas non plus, les employeurs ont bien conscience que face à des salariés déterminés, il vaut mieux parfois négocier plutôt que de passer en force. Dans cette logique, l'incapacité des syndicats officiels à représenter les travailleurs, vu qu'ils ne sont pas là pour ça, devient problématique pour les patrons eux-mêmes. De plus en plus de syndicats autonomes se mettent en place. Ces associations de travailleurs plus ou moins clandestines sont en principe illégales, mais sont quelquefois tolérées par les employeurs et les autorités locales soucieuses de garantir la poste sociale. Faut cependant ne pas se faire d'illusions, la Chine est loin d'être un état de droit, comme tout le monde le sait, et le domaine social ne fait pas exception. Han Dongfang, fondateur du premier syndicat autonome à la fin des années 80, a passé plusieurs années en prison avant d'être expulsé de Chine. S'engager dans le syndicalisme, c'est encore aujourd'hui prendre le risque d'être licencié, battu, voire emprisonné. Alors même que le droit du travail chinois n'est pratiquement jamais respecté, comme aurait pu dire Marx lui-même, prolétaire de toute la Chine, unissez-vous.
C'est un péril jaune qui fait quand même un peu moins peur que le péril noir. Après avoir parlé d'Asie, nous revenons en France où Jean-Marc va nous parler de son cher ami Manuel Valls.
Alors Manuel Valls, c'est un personnage bien connu, c'est le Sarkozy du PS qui partage avec lui plein de qualités, notamment le fait d'avoir un orgueil sans bornes, une ambition sans limite et des capacités, une intelligence des plus réduites. Alors ce cher monsieur a pris la parole avec sa démagogie habituelle sur le dos des Roms. Il essaye de se faire des 8% dans les sondages en surfant sur la xénophobie ambiante et notamment sur la xénophobie anti-Rom qui a bonne presse en ce moment en France malheureusement. Et il a réussi à dire que les Roms, bulgares et roumains, pour beaucoup d'entre eux, avaient vocation à repartir chez eux. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Lefort, qui est un ancien député, qui a fait une très bonne tribune, dans laquelle il dit tout le bien qu'il pense de Manuel Valls et de ses pensées. Alors je vais me permettre de lui emprunter donc une partie de cette tribune que vous pouvez retrouver sur l'humanité.fr. Alors j'en donne des extraits parce que sinon ce serait un peu long pour la radio. Je commence. Manuel, tu as déclaré hier soir sur BFM que la situation était très différente pour toi relativement à celle des Roms, car ta famille espagnole était venue de France pour fuir le franquisme. Tu as été naturalisé français en 1982. Franco est mort en 1975, 7 ans avant ta naturalisation. Quand tu es devenu français, il n'y avait donc plus de dictature en Espagne. Tu avais donc vocation, selon tes mots, à retourner dans ton pays de naissance, en Espagne. Celui qui t'écrit en ce moment est un Français d'origine manouche par son père. Mon père, manouche et français, est allé en 1936 en Espagne pour combattre le franquisme, les armes à la main, dans les brigades internationales. Pour la liberté de ton pays de naissance et donc celle de ta famille, il est mort, Manuel. La guerre mondiale est venue et les camps nazis se sont aussi ouverts aux Tziganes, tu le sais. Mais un nombre énorme de manouches, de gitans et d'espagnols se sont engagés dans la résistance sur le sol français. Je te demande le respect le plus absolu pour celles et ceux qui se sont engagés dans la résistance contre le franquisme, puis ensuite contre le nazisme et le fascisme. Et pourtant, à te suivre, ils avaient vocation à retourner ou à rester dans leur pays d'origine, ces étrangers et nos frères pourtant. Manuel, on a accueilli la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne, alors que ces pays ne respectaient pas et ne respectent toujours pas un des fondamentaux pour devenir ou être membre de l'Union européenne, le respect des minorités nationales. Et aujourd'hui, dans ces pays, la situation des Roms s'est encore aggravée, pas améliorée, je dis bien aggravée. Et ils ont vocation à rester dans leur pays ou à revenir, dis-tu ? C'est donc pour toi une espèce humaine particulière qui pourrait, elle, supporter les brimades, les discriminations et les humiliations de toutes sortes. Ces pays d'origine ne sont pas des dictatures, c'est certain. Mais ce ne sont pas des démocraties pleines et entières, pour autant. Alors toi, l'Espagnol devenu français, tu ne comprends pas ? Fuir son pays, tu ne comprends pas ? Toi, tu ne comprends pas que personne n'a vocation à rester ou revenir dans son pays ? Sauf si tu es adepte de conceptions très spéciales, à savoir que ce qui vaudrait pour un Roumain ne vaudrait pas pour un Espagnol. Tu sais pourtant que le mot « race » va disparaître de nos lois. À juste titre, car il n'y a pas de race, juste une espèce humaine, et les Roms en sont. Savoir accueillir et savoir faire respecter nos lois ne sont pas deux concepts antagoniques. Mais quand on est de gauche, on n'a pas la matraque en guise de cœur. Pour l'heure, Manuel, j'ai la nausée. Tes propos me font gerber, même pire. Nos pères auraient donc fait tout ça pour rien, ou pour ça. Ils sont morts pour la France, Manuel. Pour que vive la France, inclus ces étrangers et nos frères pourtant.
Et Manuel Valls, comme son prédécesseur dans les médias, Nicolas Sarkozy, c'était tout bêtement des hommes politiques qui cherchent à faire parler d'eux. Ce sont des hommes pressés.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'attaque.
Alors, nous recevons ce soir Marc de Le Pouve, qui est professeur agrégé de mathématiques, qui enseigne à l'université Lille 1, et on le reçoit en fait pour ce petit livre, mais qui est dense, Une société intoxiquée par les chiffres, proposition pour sortir de la crise globale. Voilà. Et donc moi, ce qui m'a frappé, la première chose, c'est en voyant ça, c'est une société intoxiquée par les chiffres et la crise globale. C'est-à-dire que l'originalité de ce livre, c'est d'aborder la question de la crise globale, crise à la fois environnementale, sociale, économique, politique, à travers la question des chiffres. Et ça, pour le coup, c'est très original. Donc, pourquoi ?
En fait, il y a un aspect de la crise qui est de première importance, qui est une crise du savoir. Et notamment, dans cette crise du savoir, apparaît une place donnée aux mathématiques et aux chiffres qui ne leur est pas due. En quelque sorte, les mathématiques et les chiffres sont sortis de leur lit et envahissent des domaines de la pensée, des domaines du savoir, où elles n'ont pas à être. Alors l'exemple le plus connu, pour faire court, c'est le PIB. La place accordée au PIB, qui est un chiffre, est totalement démesurée et limite fortement la capacité à penser le monde, à penser l'économie.
D'accord. Et dans ton livre, tu parles de scientisme, mais on pourrait aussi argumenter en disant, après tout, ce qui a permis le développement de la société industrielle, de l'Europe, de l'Occident en général, c'est une croyance dans la science. Donc, quelque part, ce scientisme, c'est utile.
Alors, la science est extrêmement utile, les mathématiques aussi. Au-delà du fait que c'est une matière que l'on peut apprécier, c'est très utile pour comprendre le monde, pour penser le monde et pour outiller le monde. Mais en même temps, un outil que sont les mathématiques, si on l'utilise à mauvais escient, il peut se retourner contre son utilisateur. Et là, je pense que le néolibéralisme a utilisé un aspect du scientisme qui tente à accorder une place trop importante aux mathématiques. Il l'a utilisé afin de manipuler les populations et de leur faire avoir des croyances et aussi des comportements qui sont ceux que les néolibéraux souhaitent. Cela afin de défendre les intérêts d'une classe de personnes privilégiées ayant énormément de pouvoir.
Alors, un des exemples que tu donnes d'une utilisation très maladroite et malhonnête des chiffres, c'est le rapport Charpin. Alors déjà, peut-être en quelques mots, expliquer qu'est-ce que c'est que le rapport Charpin.
Alors, le rapport Charpin est un rapport portant sur les retraites qui a été rédigé en 1999 à la demande du Premier ministre Lionel Jospin et qui a été rédigé par le commissariat au plan qui, à cette époque-là, était présidé par Jean-Michel Charpin.
Dans ce rapport sur lequel se sont basées plusieurs réformes de la retraite, tu le dénonces en disant qu'il y a un certain nombre d'erreurs ou de manipulations volontaires des chiffres permettant de justifier ces réformes. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, parce que c'est un petit peu l'actualité en ce moment, la réforme des retraites.
Alors, il y a des erreurs et des manipulations de deux ordres très différents. Le premier ordre, c'est des erreurs grossières dans l'interprétation des chiffres. C'est-à-dire que Jean-Michel Charpin, qui présidait ce rapport, est un homme qui a une connaissance aiguë, forte des mathématiques et des statistiques, et il en a fait des interprétations totalement erronées. Alors je peux détailler très rapidement la principale erreur d'interprétation. C'est il a construit son rapport autour de l'idée d'une augmentation du PIB par deux, donc multiplication en volume, pardon, du PIB par deux entre 2000 et 2050, en gros. Bon, d'une part. D'autre part, dans le cadre de ses calculs, il a démontré qu'il y aurait un triplement du coût des retraites. Et il a alerté la population. Il a fait des conférences publiques dans un tas de villes où il clamait qu'il y avait un énorme danger du fait de ce triplement du coût des retraites. Du coup, c'est son terme. Or, triplement du coût des retraites par rapport à un PIB qui est multiplié par deux, ça revient à dire que finalement, les revenus disponibles pour toutes les autres activités, pour toutes les autres dépenses hors celles des retraites, connaîtraient une augmentation de 90%. Donc il n'y a pas de problème des retraites. C'est-à-dire que son rapport aurait dû conclure il n'y a pas de problème des retraites. Et comme il a fait une manipulation grossière des chiffres, il en a conclu il y a un problème des retraites.
Oui, parce que doublement, triplement, on imagine qu'on va s'appauvrir.
Et pourtant, les gens âgés à la retraite aiment bien les chiffres et les lettres.
Alors un autre exemple que tu donnes, en fait tu t'étends assez largement et de manière assez pertinente, j'ai trouvé en tout cas, sur la question environnementale et notamment sur l'utilisation qu'on fait, à la fois en France mais dans beaucoup d'autres pays, à l'échelle globale maintenant, mondiale, des fameux rapports du GIEC. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc on est encore dans l'actualité d'une certaine manière. Et notamment, tu t'attaques à cette question du facteur 2. Alors le facteur 2, pour expliquer très simplement, c'est l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici à 2050. Comme ça, sur le papier, ça paraît très bien. Moi, ça m'a paru très bien. Pourquoi ça pose problème?
Alors ça pose deux problèmes. Le premier d'ordre scientifique, le second d'ordre politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que la réduction des gaz à effet de serre par 2 serait suffisante, serait le bon chiffre. Il n'y a aucune raison scientifique à ça. C'est un chiffre qui est purement politique. Il n'y a aucun fondement scientifique. D'ailleurs, j'ai beaucoup exploré les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC démontrent l'exact contraire. Ils démontrent que pour pouvoir stabiliser à terme le niveau de gaz à effet de serre, il faut aller au plus vite vers une réduction totale des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il y a des effets rebonds qui font que si on ne réduit pas rapidement, de façon drastique, le niveau de rejet de gaz à effet de serre, l'augmentation dans l'atmosphère de ces gaz va se poursuivre pendant quelques temps et le réchauffement climatique pendant encore plus longtemps. Donc du fait de ces effets seconds, rebond, il est important d'aller très vite. Alors, mais l'essentiel n'est pas là. Enfin, à mon sens. L'essentiel, c'est que le GIEC fait un excellent travail sur tout ce qui est bilan des connaissances scientifiques sur le passé du climat et sur l'état actuel du climat. Par contre, tout ce que dit le GIEC en termes de scénario futur, c'est scientifiquement n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi. Parce que le principe qu'il utilise est le suivant. Il ne prend en compte que les données scientifiques quantifiables. Tout ce qui n'est pas quantifiable n'est pas pris en compte. Or, les mêmes rapports dans le bilan de la situation disent qu'il y a des effets importants futurs qu'on ne peut pas mesurer à ce stade. Et que parmi ces effets, certains risquent d'être extrêmement massifs. Et ceux-là ne sont pas pris en compte dans la construction des scénarios du GIEC. Alors je donne quatre exemples dans le livre de tels effets. Le plus connu aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul, ce sont les rejets de méthane par la nature. C'est-à-dire qu'au fond des océans et aussi sous les terres gelées du nord de la planète, il y a des quantités astronomiques de méthane qui sont stockées et qui commencent à se libérer en quantité relativement faible, mais en quantité de plus en plus importante. Et ce que l'on ne sait pas, c'est, on ne sait pas répondre à la question suivante. Est-ce que ce méthane va soudain, enfin, va se libérer de façon massive dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans? À cette question, personne ne sait répondre. Or, c'est une des grandes questions que pose la question du réchauffement climatique. Et cette question est très peu médiatisée. Or, des scientifiques dont je fais référence à certains rapports scientifiques mettent l'accent sur ce danger. Mmh. Le rapport du GIEC lui-même en parle, mais il n'en tient pas compte dans ses constructions de scénarios.
Mmh. Si on appliquait au sens strict le principe de précaution, on devrait justement prendre l'hypothèse la plus, a priori, la plus dangereuse. Enfin, essayer d'appliquer le scénario qui...
Bon, moi je dirais le simple sens du réel fait que quand on est responsable politique, qu'il y a un phénomène qui peut devenir explosif, eh bien on fait tout pour éviter que ce phénomène devienne explosif. C'est un peu comme si on avait un pistolet sur la tempe, avec on joue à la roulette russe, sauf qu'au lieu d'avoir une balle sur 10, on a 9 balles sur 10 qui sont dans le pistolet.
On ne va pas jouer très longtemps.
Donc on arrête de jouer, quoi.
Y a, plus généralement, tu abordes la question des réformes actuelles de la recherche aussi. C'est-à-dire que dans cette évolution de la science actuelle et du rapport que des gens qui ne sont pas scientifiques ont à la science, se pose la question de ces réformes qui ont commencé sous Sarkozy, même un petit peu avant, dans la continuité d'ailleurs de la stratégie dite de Lisbonne au niveau européen, et qui sont d'ailleurs généralement appréciées, pratiquement tout bord politique confondu, l'ensemble des médias trouvent que c'est des bonnes réformes, etc. Et tu les attaques billes en tête, et notamment tu attaques le fameux classement de Shanghai.
Tout le champ politique porté par les médias, les médias liés au monde de l'économie et de la finance.
Oui.
Par contre, les médias indépendants, tels que l'UMA que tu citais, où les partis politiques qui sont proches de l'UMA ne portent pas du tout cette vision-là des choses.
Oui,
non. Donc le champ politique ne se résume pas à celui dont on parle dans les grands médias. Bon, ceci étant dit, la recherche, c'est un outil extraordinaire et indispensable pour faire front, pour affronter les grands défis de l'humanité, notamment le réchauffement climatique. Il faudrait à ce stade mettre en marche un plan international de recherche pour développer les énergies dites renouvelables, pour aller vers la plus grande efficacité énergétique et aussi pour amener les populations à être plus sobres dans leur consommation. Et ça ne pourra pas se faire sans un plan massif de recherche. Alors la recherche aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Russie, partout, elle est de plus en plus dirigée vers les besoins à court terme de l'économie, afin que chaque territoire économique, la France pour ce qui nous concerne, ma région, le Nord-Pas-de-Calais, c'est là-bas où j'habite, tous les territoires sont en train d'organiser leur recherche comme étant une arme de la guerre économique internationale. Et ça se fait au détriment de la capacité de la recherche à contribuer aux réponses aux grands défis que rencontre l'humanité. Et ça, c'est absolument dramatique et il faudrait que les populations se mobilisent pour changer cela.
D'autant que la classe politique, et typiquement notre ministre actuel, met l'accent et se vante d'avoir de plus en plus les moyens de diriger la recherche au travers des différents organismes qui sont mis en place d'ailleurs par ses prédécesseurs dans l'optique de la recherche. Et elle s'en vante systématiquement comme si c'était un des nouveaux bienfaits de la société moderne.
Dans l'optique de la soumission à l'économie.
Dans l'optique de la soumission à l'économie, pardon, je n'ai pas fini ma phrase.
Voilà. Et alors j'ai noté aussi cette phrase qui résume assez bien, il me semble, ton propos. Aveuglé par la croyance selon laquelle le savoir exprimé dans le langage des mathématiques serait supérieur à tout autre savoir, l'individu se détourne des savoirs indispensables, ne les cultive plus, n'en tient plus compte et perd le sens du réel. Et alors voilà, tu as utilisé cette expression tout à l'heure aussi en répondant à une des questions. Qu'est-ce que c'est le sens du réel et qu'est-ce que c'est que ces savoirs indispensables qu'il faut absolument cultiver?
D'accord. Alors, par exemple, le sens du réel, c'est dès lors que l'on sait qu'il y a un risque que le méthane devienne une bombe climatique, idem pour d'autres éléments du climat d'ailleurs, le sens du réel devrait nous amener à nous lever et à dire à nos gouvernements, arrêtez, prenez les choses en main. Or, les mathématiques sont utilisées pour nous faire croire que le facteur 2 serait suffisant pour résoudre la question, pour éviter la catastrophe. Et donc, les gens se rassurent derrière ce facteur 2, qui est en fait totalement bidon, mais auquel les gens croient, parce que dès qu'il y a des chiffres, ça les rassure. Donc il y a une sorte de scientisme. Dès qu'il y a un chiffre, ils sont rassurés, qui les amène à ne pas réfléchir au-delà de cette description par les chiffres, qui en l'occurrence est erronée.
Mais si vous, on en a marre des chiffres, on peut écouter des lettres aussi, hein.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V, U, T, S, R, U, P, O, M, M, L, K, J, I, H, G, F, E, B, C, D, A, Z.
Et on vient d'écouter Philippe Catherine qui nous expliquait que les derniers seront toujours les premiers. Et on continue l'interview de Marc Delpouve par Alex.
Alors oui, la question est donc, qu'est-ce qui te donne aussi la possibilité de... Parce que toi aussi tu utilises des chiffres en fait, tu te bases aussi sur des travaux scientifiques. Comment pourrait se passer un meilleur rapport entre... une meilleure médiation entre le monde scientifique d'une part... qui fait un travail utile, nécessaire, et les médias, et au-delà, l'ensemble des personnes, cultivées ou non, mais qui s'intéressent aux questions.
Bon, déjà, si les médias, comme le demandait le Conseil national de la Résistance, étaient indépendantes du monde de la finance et de l'économie, elles auraient un discours un peu moins construit en faveur des intérêts du monde de la finance et de l'économie. Donc là, on aurait déjà plus d'espoir d'avoir un discours médiatique un peu plus rigoureux. D'une part. D'autre part, il y a la question de l'éducation. Je suis prof de maths, j'ai enseigné en collège, en lycée, à l'université. Dans les programmes, il n'y a jamais une partie qui est consacrée à éveiller l'esprit critique de mes élèves ou de mes étudiants à l'égard du discours médiatique scientifique. On ne leur donne pas les outils pour, par exemple, analyser le rapport Charpin. C'est-à-dire qu'on leur apprend à faire des maths dans le monde des maths, mais par contre, à utiliser les maths hors dehors des maths, si ce n'est pour la physique ou des choses comme celle-là, on l'enseigne quasiment pas. Si bien que les citoyens sont démunis face au discours médiatico-politique qui leur est servi.
Et dans ton livre, parce que le sous-titre, on n'en a pas beaucoup parlé, on est resté beaucoup sur une société intoxiquée par les chiffres, mais on n'a pas beaucoup parlé des propositions pour sortir de la crise globale. Tes propositions, elles s'appuient aussi sur des données chiffrées. Donc ça veut dire qu'il y a une... pour par exemple sur la question environnementale, c'est quoi ta proposition fondamentale ou tes propositions fondamentales?
Alors la proposition fondamentale que j'ai fait dans le livre, et je l'ai énoncé il y a quelques minutes, c'est de réformer radicalement la recherche. Mais dans une réforme radicale de la société, c'est-à-dire de faire qu'on ait une société qui soit en capacité de faire face aux défis divers que rencontre l'humanité aujourd'hui. Et pour cela, il faut que l'humanité soit dégagé de l'emprise de ce que j'appelle une oligarchie de personnes qui sont extrêmement riches et qui ont du pouvoir et qui aujourd'hui dominent l'humanité et aussi anesthésient la démocratie. La démocratie aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est anesthésiée, elle est devenue en incapacité d'agir sous la domination de l'oligarchie qui a le pouvoir sur les médias et maintenant sur la recherche, etc., etc.
Mais là, tu nous parles depuis un moment de chiffres, bien sûr. Tu critiques les chiffres de certains livres bien connus, de rapports gouvernementaux, et tu les combats par des chiffres eux-mêmes. Donc finalement, c'est pas les chiffres que tu remets en question, c'est plutôt le mauvais emploi des chiffres. Mais qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un, justement, même s'il est éveillé, même s'il a une connaissance scientifique, qu'est-ce qui va vraiment lui permettre de pouvoir trancher entre qui a raison, entre un militant qui s'appuie sur les chiffres avec une conviction militante, et puis en face, un autre militant de l'autre bord qui fait la même chose?
Alors, il s'avère que toute ma réflexion, elle est basée sur la lecture de production de recherche, et non pas sur la lecture des discours médiatiques. Si j'ai lu les rapports du GIEC, c'est pas en considérant que les rapports du GIEC étaient des rapports scientifiques, puisque le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental d'experts. C'est-à-dire que ce sont des experts qui sont nommés par les États. Pour être expert au GIEC, il faut être nommé par son État, et donc il faut être politiquement correct. Donc là, c'est pas une organisation scientifique. En même temps, je rappelle que le GIEC a joué un rôle extrêmement important parce qu'elle a fait... Le GIEC a fait un bilan de l'état du climat et fait encore des bilans de l'état du climat qui sont extrêmement pertinents et rigoureusement scientifiquement rigoureux. Donc le GIEC, à cet égard, est très utile. Mais dès lors qu'il fait des projections vers le futur, il a un discours dont le but, selon moi, est d'éviter, enfin, et d'une part, d'amener les populations à prendre conscience du problème, mais d'autre part, à ne pas, enfin, à atténuer la réalité du problème pour éviter que les populations se disent le système dysfonctionne. Il faut que l'on remette en question les bases de notre système, car ce système nous envoie dans le mur, enfin risquerait de nous envoyer dans le mur. Et donc, pour protéger le système et protéger les intérêts des personnes les plus fortunées et les plus puissantes, ils ont construit des scénarios au niveau du GIEC qui sont d'une fiabilité proche de zéro, mais qui permettent justement d'alerter un peu, mais pas trop, de faire que les gens soient prêts à se mobiliser, mais dans le cadre du système, et non pas qu'ils appellent à une modification du système.
S'il était beaucoup plus alarmiste, on les traiterait d'ailleurs de dangereux prophètes de l'Apocalypse. Les gens ne voudraient pas les croire, peut-être aussi.
Non, ce serait facile, parce que si le GIEC conclurait simplement en disant il y a cette étude de tel scientifique de l'Université de Laval qui alerte sur le méthane, il y a cette étude de tel climatologue qui alerte sur le fait que le système nuageux, lorsqu'il va changer, lorsqu'il va évoluer, il va être dans une configuration inédite qu'on n'a jamais vu, et que cette configuration, on ne sait pas si elle va être positive ou négative. C'est-à-dire que le système nuageux, il est à la fois, il a un effet de miroir, donc il rejette la chaleur, mais il a aussi un effet de serre. Et ce système nuageux va être bouleversé par le réchauffement climatique. Et personne ne sait, et c'est massif, hein, c'est extrêmement massif cette affaire, personne ne sait si le système nuageux va refroidir la Terre ou la réchauffer. Personne ne le sait. Donc on ne peut pas jouer à pile ou face. Là, on joue, avec le système nuageux, on joue à pile ou face. Avec le réchauffement climatique, on ne sait pas si le système nuageux va nous brûler ou bien va nous sauver. Personne ne le sait.
Voilà. Et je voulais juste, pour terminer cette interview, conclure en disant que c'est quand même, au-delà de la question des chiffres, un appel à l'engagement, au militantisme, avec cette idée que même si on n'est pas un scientifique, on peut s'intéresser à ces questions-là.
Complètement.
On pourrait peut-être terminer sur une donnée chiffrée, c'est-à-dire qu'il y a 5% de la population mondiale qui profite de tout et 95% qui vont en subir les conséquences. Et que 95%, c'est une belle majorité pour faire changer les choses.
Alors, on continue avec les chiffres, parce que Patrick va nous en parler le plus simplement qu'il soit, bien entendu, nous expliquer tout ce qu'on n'a pas compris.
Chiffres. Mots qui cinglent, mots qui griffent, qui nous agrippent et qui nous grippent sous. Saisi par les chiffres, tu t'enlises dans leur friche, esclave des chiffres dont tu ne peux t'affranchir. Et pourtant, esthétique des chiffres, calligraphie des chiffres, courbure des Arabes, statuaire monumentale des Romains, poésie des chiffres, musique des chiffres, ritournelle des tables où les chiffres font nombre, annonnée des heures durant dans les salles de classe, sonate verbale pour maxillaire inexpérimenté, concerto pour chiffres seuls, symphonie pour nombre sans fin. Je parle d'un quoi ? Je parle d'un d'eux. De l'un, deux, non, d'un, deux, trois, c'est plié en quatre jusqu'au cinq, et six et sept, alors ça va, et huit, huit pour faire un neuf, du tout neuf, avant de revenir à zéro. Je parle les chiffres, je chante les chiffres qui hantent, me libérant des chiffres, je me déchiffre, je me dérythme de l'arithmétique, dans un art au rythme métrique.
Merci Patrick. Et après cette intervention, une petite conclusion de notre invité sur son livre, entre autres, La société malade des chiffres.
Oui, ma conclusion, c'est que on a très peu parlé de la seconde partie du livre, c'est les propositions. Car personnellement, je ne pense pas que la situation soit totalement périlleuse, loin s'en faut. Et certains mouvements, comme le mouvement des indignés ou Attaque, ou le mouvement altermondialiste, où, et surtout ce qui se passe en Amérique latine, et plus fondamentalement l'appropriation qui pourrait se faire d'Internet, peut, je pense, donner lieu à une renaissance de la démocratie sous une forme qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui, et qui devrait pouvoir permettre aux populations, bon, à l'échelle mondiale, de s'approprier l'avenir collectif de l'humanité. Alors ça paraît des belles phrases, mais la situation extrêmement inquiétante dans laquelle nous sommes, je pense que ce sera elle qui va pousser les humains à prendre les choses en main. Et donc l'objectif de ce livre, c'est à la fois, l'objectif ambitieux, d'aider à la prise de conscience de la gravité de la situation, mais aussi de donner la conviction au lecteur que l'avenir n'est pas condamné et que collectivement, on a la possibilité, et on va probablement le faire, de prendre les choses en main et de changer la donne.
Voilà, bon, sur ces belles paroles, Boris, malheureusement, va enchaîner pour décrire une partie de la population qui, elle, n'a pas vraiment l'habitude de militer.
Voilà, alors, je ne sais pas si ça sera ma conclusion, mais en tout cas, il y a une expression qui commence à me fatiguer, voire à me courir sur le haricot, c'est celle de Bobo, bourgeois bohème. Cette expression que l'on entend ressortie à tout bout de champ et à toutes les sauces est une ineptie sociologique et un non-sens lexical. Un oxymore qui allie deux mots antithétiques et qui permet de fourrer tout dans un terme facile à dire, et ce que le bon peuple français moyen déteste. Le bourgeois, riche et installé, et le bohémien, instable, pauvre et je m'en foutiste, voire voleur. C'est également un instrument langagier pour la droite.
Comme dit Manuel Valls.
Voilà. C'est également un instrument langagier pour la droite bien raide et bien décomplexée pour stigmatiser on ne sait pas trop bien qui. Mais en gros, les gens qui ont quelque argent et des idées plutôt progressistes ou des pratiques de vie qui s'accordent avec des intentions de partage social et de conscience écologique. Un fourre-tout stigmatisant qui allie un oubliot déchu et écologiste de province, un élugué infographiste du 11e ou un couple d'ingénieurs qui a pu acheter jeune son domicile tout en votant à gauche.
C'est la liste de tes amis, c'est ça ?
C'est ça. C'est les exemples que je connais. Ce type d'expression creuse...
Tu pourras nous la fournir pour Frigide Bardot.
Ça peut marcher. Ce type d'expression creuse ainsi une idée de défiance contre une soi-disant classe qui n'existe pas. Et ce terme est passé dans le langage courant. Même Renaud le chante. Et on parle de boboisation ou de boboland. Mais on est tous le bobo de quelqu'un. Le RMiste écolo qui construit sa maison en paille est le bobo du RMiste locataire. La mère de famille qui achète des produits bio pour ne pas empoisonner ses enfants est la bobo de celle qui va chez Leader Price. L'habitant du centre-ville avec ses quelques mètres carrés est le bobo du banlieusard qui habite une maison, mais trime dans les transports. Et puis le salaire, ça c'est pas compliqué. Le RMiste est le bobo de celui qui n'a rien, le smicard est le bobo du RMiste, etc. Au-delà, il y a les riches, les vrais, qui, quand ils ne sont pas nouveaux, préfèrent la mettre en veilleuse et promouvoir une défiance des pauvres envers les moins pauvres, qui auraient une conscience de classe afin de détourner l'attention de leur caste. On pourrait les stigmatiser aussi comme pourriches, pouvoir-richesse ou caca, capitaliste carnassier. Et là, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Mais revenons au principe de cette expression. La bourgeoisie, à la base, ce sont ceux qui habitent le bourg, donc la ville, entre les paysans et les nobles. On dirait aujourd'hui profession intermédiaire, et principalement des artisans et des commerçants. L'abolition des privilèges, mise en place par la révolutionnaire française, a fait disparaître une caste, les nobles, mais a laissé la place au bourgeois, qui devient le noble du capitalisme libéré, menant un grand train de vie et montrant de façon ostentatoire sa réussite. On est passé du droit divin à celui de l'argent. Les socialistes et les écrivains du XIXe siècle en ont fait une critique virulente et acerbe. Le capitaliste industriel remplace la noblesse, et la bourgeoisie est devenue un concept marxiste, les possesseurs des moyens de production. Le bohémien, on connaît la chanson, celle d'Aznavour. Et elle a fait passer une signification géographique, la bohème en Europe centrale, et socio-économique, celle du bohémien, comme carte postale de l'errance et de la musique, ou comme un mode de vie. Les bohémiens, tiganes, gitans, manouches, romanichels, saintis, peuple issu de l'Inde, sont une survivance du monde nomade dans une Europe sédentarisée. Le juif errant en était une autre, que les nazis ont voulu éradiquer, et que le sanctuaire européen stigmatise à l'intérieur, comme il empêche à l'immigré d'accéder à son territoire, et ce qui devient un enjeu aujourd'hui politique, et qui par glissement nous fait oublier que la loi est la même pour tout le monde. Le concept de Bobo. Il a été mis en forme par un journaliste conservateur américain, David Brooks, dans un livre « Bobo in Paradise, the new upper class in the old Abdelapoum
wow. »
paru dans la fin des années 90. Il a observé que les nouveaux riches, les Yuppies à l'époque, revenaient en centre-ville durant les années 80. Dans les années 50 et 60, l'apparition de la voiture avait créé la possibilité de s'installer au pourtour des villes, dans des banlieues, avec des maisons qu'on connaît tous aux États-Unis. Les pauvres restaient dans les centres-villes. Ce terme-là est une ressaucée stigmatisante d'un concept plus sérieux, celui de gentrification, du mot anglais gentry, petite noblesse. Il s'agit d'un phénomène urbain d'embourgeoisement. Ce processus par lequel des arrivants plus aisés s'approprient les espaces initialement occupés par les habitants moins favorisés, transformant ainsi des profils économiques et sociaux du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure. Ce néologisme a été employé pour la première fois par la sociologue Ruth Glass dans son ouvrage « London, Aspects of Change », étudiant le phénomène à Londres dans les années 60. Il s'agit d'un phénomène sociologique concernant l'habitat. C'est un phénomène qui est en cours dans certains quartiers, partout en France, mais aussi dans certaines banlieues. Mais discuter de la politique de la ville et du logement, des quartiers populaires, de la spéculation immobilière ou de l'habitat urbain pourrait nous emmener très loin. Revenons à nos bobos. Le Front National a fait de la dénonciation des bobos un de ses axes de campagne lors des élections présidentielles de 2012. Le caractère flou de ce terme lui permettant d'englober l'ensemble de ses opposants. Et avec les municipales du printemps, on va en bouffer du bobo. Marine Le Pen n'a que ce mot à la bouche. On se rappelle du bobo venu après un brunch au spectacle de la Concorde avant de filer en Vélib à Vincennes, voir si François avait une cravate plus cool que Nicolas, à moins que sa séance de yoga ne les oblige à renoncer à ses festivités. Selon elle, même Nathalie Kosciusko-Morizet en serait. C'est tout dire. La bourgeoisie, la vraie, bien au-delà des 3000 euros mensuels qui seraient le seuil de la richesse selon François Hollande, est plutôt conservatrice. Et quand elle est socialiste, elle est loin d'être bohème. Alors cessons d'utiliser ce mot creux. Combattre la droite, c'est aussi la mettre en accusation dans son champ lexical. Appelons un chat un chat. Quant à Marine Le Pen, c'est une fille à papa, une grande bourgeoise populiste et d'extrême droite.
On vient de parler des bohèmes, mais quand on parle des bohèmes, on pense plutôt aux Roms et on leur rend un bel hommage avec une partition musicale qui s'appelle « T'as la touche manouche » de la Caravane Passe avec San Severino.
Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, dactylo, reconverti.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Bonne d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires.
Alors, on va rappeler quand même le titre du livre de Marc Delepoux. C'est donc « Une société intoxiquée par les chiffres », sous-titre « Proposition pour sortir de la crise globale », et c'est dans la collection « Questions contemporaines » à l'Harmattan.
Et nous écoutons maintenant la chronique de Gaël, qui va nous parler de la... J'ai oublié ce que c'est, mais Gaël va nous le dire.
De ce que veut dire la protection de l'investissement.
Je m'en pose bien la question, effectivement.
Voilà. Donc il y a un an déjà, je vous avais raconté comment une entreprise peut contester une mesure de protection de l'environnement prise par un État en s'appuyant sur un accord international de commerce. L'astuce, c'est le mécanisme dit de protection des investissements. C'est une clause dans les accords de commerce qui interdit à un État de prendre une décision qui porterait atteinte au profit escompté par un investisseur. C'est ainsi qu'une entreprise pétrolière qui avait porté plainte contre le Canada parce que le Canada l'empêchait de polluer tranquillement. Et la série se poursuit aujourd'hui avec Eli Lilly. Eli Lilly, c'est pas une petite fille, c'est une multinationale pharmaceutique états-unienne qui réclame au gouvernement canadien 500 millions de dollars américains suite à l'annulation de deux de ses brevets par la justice canadienne. Eli Lilly souhaitait étendre au Canada deux de ses brevets sur des médicaments. Or, dans un cas, les juges ont estimé que le médicament ne réalisait pas les performances annoncées et ne présentait pas d'utilité dans le cadre d'un traitement long. Dans l'autre cas, le médicament n'apportait rien de plus à ceux déjà sur le marché. Cette décision de justice a contrarié Eli Lilly, qui espérait tirer 3 milliards de dollars de profit sur ses médicaments. Heureusement pour Eli Lilly, il y a l'ALENA. L'ALENA, c'est l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cet accord comporte un mécanisme de protection des investissements qui permet à un investisseur, entre guillemets, de contester toute décision d'un État ou d'une collectivité qui menacerait ses profits. Ne soyez pas jaloux, ça arrive aussi chez nous. Cette clause existe dans l'accord Union européenne-États-Unis qui est en préparation et dans l'accord Europe-Canada qui est quasiment conclu.
dont Gaël nous a largement déjà évoqué l'existence dans les émissions précédentes.
Et Lily attaque donc le Canada au nom de l'ALENA et lui réclame 500 millions de dollars au motif que le Canada ne respecte pas ses obligations vis-à-vis des investisseurs. Comme le souligne Larry Brown, le secrétaire d'un des principaux syndicats canadiens, les accords de commerce ne portent pas réellement sur le commerce, mais sur l'affaiblissement de notre capacité à gouverner nos propres pays. Ce sont des systèmes furtifs d'extension des droits et privilèges des entreprises et de limitation des régulations publiques de la finance, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'énergie. Eli Lilly a fait appel de la décision de justice, mais sa demande a été rejetée par la Cour suprême du Canada. Pour n'importe quel citoyen, la partie s'arrêterait là. Mais les firmes transnationales bénéficient d'une loi au-dessus des lois nationales, l'ALENA, et d'un tribunal au-dessus de la Cour suprême, qui est composé de 3 experts en droit des affaires qui appliquent l'ALENA. Cette suprématie du droit des investisseurs sur celui des gouvernements à protéger leurs citoyens, c'est exactement ce que programment chez nous les futurs accords Europe-Canada et Europe-États-Unis. Et ça va même plus loin. L'accord Europe-États-Unis renforce le mécanisme de protection des investissements par un mécanisme dit de transparence. La transparence, c'est une sorte de protection préventive. C'est-à-dire que toute nouvelle réglementation souhaitée par un État devrait, avant d'entrer en vigueur, être examinée par un comité de suivi de l'accord de libre-échange. Et ce comité déciderait, hors de tout contrôle démocratique, de la compatibilité de la nouvelle réglementation avec l'accord de libre-échange. Et là, c'est pratique. Les multinationales n'auraient même plus besoin de contester des jugements défavorables puisque la loi elle-même serait conforme à leurs intérêts. Le paradis capitaliste, c'est pour demain.
Et on enchaîne sur l'agenda. Boris.
Alors demain, un pique-nique des géants contre Monsanto, la multinationale de l'agrobusiness des OGM et des pesticides. À 12h30, place Stalingrad. Toutes les infos sur collectiflesengraineurs.com.
Alors, sous les pavés, la ville, table ronde animée par Hervé Kampf, rédacteur en chef de Reporter, avec Julien Bayou, cofondateur du collectif Jeudi Noir, des artistes, etc., etc. Donc, dans le cadre du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, 11e édition, samedi 12 octobre à 17h30 à la Bellevilloise, 21 rue Boyer, dans le 20e.
Manipuler le climat, manipuler la vie, raison et déraison des nouvelles technologies. Lundi 14 octobre à 19h à l'Auditorium de la Cité des Sciences à Paris.
Une rencontre débat sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les USA. Ce sera animé par Suzanne Georges, présidente d'honneur d'Attaque France, le mercredi 16 octobre à 20h au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cannabis, Paris 14e.
La finance va nous saigner, alors saignons la finance. C'est une rencontre avec François Ruffin, mercredi 16 octobre, au lieu dit 6 rue Sorbier, dans le 20e.
Les 10 ans de Stop Pub sera le jeudi 17 octobre à 19h au bloc 58 rue Mouzaïa, dans Paris. À 19h30, une auberge espagnole, table ronde et des concerts.
Sur le journalisme d'investigation, dans le cadre des jeudis d'Acrimed, le jeudi 14 novembre à 19h, Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e. Toutes les infos sur le site d'Acrimed.
Attaque fête ses 15 ans avec la participation de Christophe Alévèque, Fantasio, HK et les Déserteurs, etc. Le vendredi 15 novembre au Cabaret Sauvage, Parc de la Villette, Paris. Tous les renseignements sur www.france.attaque.org.
11e festival de cinéma Images mouvementées d'Attaque PNO. Au pouvoir, au désespoir, le thème de cette année, le pouvoir dans toutes ses formes. Du mercredi 20 novembre au lundi 25 novembre, cinéma à la clé, 21 rue de la clé, Paris 5e.
Un petit erratum, contrairement à ce qu'a dit Gaël, c'est pas rue Cannabis mais rue Cabanis.
Bien évidemment. Alors, nous avons, pour remercier cette émission, la présence de Marc Delpouve, qui nous a parlé d'une société intoxiquée par les chiffres aux éditions L'Armatan. Un petit livre, mais bien dense, avec plein d'idées nouvelles. Et nous remercions tous ceux qui ont participé à l'émission. Boris, Jean-Marc, Patrick, Gaël, Alex et Claude à la technique. Et Magali, qui était passée nous faire un petit coucou. Et nous terminons en écoutant Vuelvo al Sur de Richard Galliano.